Bienvenue au deuxième congrès virtuel francophone de FT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, j'aimerais juste rappeler qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats sur vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce cadre étant posé, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Guret. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Maria.
Alors ce soir, Jean-Michel va nous parler de comment maigrir et rester mince avec l'UFT. Et vous en avez peut-être assez de l'effet yo-yo concernant votre poids. Vous avez déjà essayé tous les régimes miracles de la planète et vous voulez vous libérer de ce surpoids qui vous gâche la vie. Alors, vous êtes au bon endroit. Parce que dans cette conférence, Jean-Michel va nous expliquer une approche innovante pour comprendre les vraies raisons de la prise de poids, et ça, sans privation. Jean-Michel Guret est coach et thérapeute à Lyon et à Paris depuis 2004. Il combine plusieurs outils comme l'hypnose et l'EFT. Et il est aujourd'hui formateur en EFT et président de l'Institut français de psychologie énergétique clinique qui se trouve à Lyon. Jean-Michel Guret a écrit le livre « Maigrir et rester mince avec l'EFT » vendu en plus de 8000 exemplaires et il est le créateur du programme Mental Slim, un programme de coaching sur Internet qui depuis 2007 a aidé plus de 30 000 personnes à se délester de leurs kilos superflus. Je vous rappelle que vous pourrez poser des questions par chat à la fin de la présentation. Alors si vous avez des questions, notez-les et Jean-Michel se fera un plaisir d'y répondre. Alors Jean-Michel, est-ce que tu as l'impression que l'EFT est en train de se démocratiser ?
Alors oui, j'en ai la nette impression. Ceci dit, il faut raison garder. Je trouve que quand on regarde les chiffres que tu annonçais tout à l'heure, 8000 exemplaires de l'ouvrage rapportés à la population française, ça fait quand même, on mesure le chemin qui nous reste à parcourir tous ensemble pour développer la notoriété de cet outil vraiment très efficace. Mais néanmoins, si on regarde aussi les chiffres, je l'ai comparé récemment avec l'EFT pour les nuls, qui est dans la collection psychologie, le score réalisé par l'ouvrage sur l'EFT est supérieur à d'autres techniques. Donc ça montre qu'il y a quand même vraiment un gros intérêt pour cette technique. Et puis, on peut voir qu'il y a pas mal d'articles qui sortent régulièrement. Ce mois-ci, au mois de mars, dans le numéro de Santé Magazine, j'avais un joli article de plusieurs pages qui faisait la part belle à l'EFT. Donc, oui, si toutes ces initiatives se multiplient, c'est certain que l'EFT va continuer à se démocratiser. Également, je crois que le mois prochain ou dans 2 mois, il y aura sur TLM une émission qui s'appelle 90 minutes et dont on parlera pas mal d'EFT. Ce que je voudrais dire aussi, et ça me semble vraiment très très important, c'est que nous tous, c'est-à-dire les formateurs, fassions vraiment très très attention à ce qu'on dit par rapport à l'EFT. Donc je voudrais rebondir sur ta mise en garde du départ. C'est l'EFT, c'est un outil thérapeutique et un outil de coaching qui est très efficace si on l'utilise bien, qui est totalement inefficace si on l'utilise mal. En aucun cas, c'est une panacée, en aucun cas, c'est quelque chose qui est miraculeux. C'est juste efficace et c'est très complémentaire à la médecine allopathique. Donc j'entends des fois dans des interventions, des congrès, où vraiment on a tendance à dire que l'EFT guérit tout. Faut vraiment être raison gardée et c'est à mon avis ce qui nous permettra justement de pouvoir amener cet outil à un degré de maturité et de connaissance du grand public. J'en profite aussi juste pour saluer nos auditeurs et nos auditrices et les remercier d'être à l'écoute de mon intervention.
Oui, nous les saluons tous, bien sûr. Et je suis tout à fait d'accord que l'EFT est un outil avant tout et il faut l'utiliser tel quel.
Absolument.
Alors comment justement l'utilises-tu dans ton travail avec les personnes en surpoids ?
Alors, comment je l'utilise, c'est au départ, moi il me semble vraiment indispensable de déculpabiliser les gens. Le discours ambiant et général, c'est de dire, eh ben, si vous êtes gros, c'est parce que vous mangez trop, donc il n'y a qu'à faire des efforts, il n'y a qu'à utiliser votre volonté. Ça, c'est vraiment un discours qui est pas du tout ok, parce que en fait les personnes ne sont pas coupables de trop manger. Et il ne suffit pas simplement de moins manger pour maigrir. Je reçois par exemple en consultation des personnes, j'en ai eu une récemment, qui me disait qu'elle avait subi une cure de 800 calories par jour sur une dizaine de jours et qu'elle n'avait pas perdu un gramme. Donc c'est, j'en discutais avec différents médecins et eux, ils appellent ça l'ichtyopsie. Il y a vraiment une dimension émotionnelle derrière le surpoids. C'est pas simplement dans l'assiette que ça se passe, mais ça se passe vraiment dans la tête et surtout au niveau du cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Donc c'est vraiment urgent de prendre en compte cette dimension émotionnelle et psychologique dans la prise en charge des personnes qui sont en surpoids ou plus encore qui sont en obésité.
Oui.
Il faut savoir, enfin moi ce que je vois souvent dans les consultations, c'est la dimension de la protection. Si on se place en fait du côté de l'inconscient et du bénéfice secondaire du surpoids, alors ça peut surprendre énormément de personnes au départ, se dire mais comment ça il y a un bénéfice. En fait, avoir trop de kilos, c'est mettre une distance, une couche de protection entre soi et les autres. C'est vraiment une dimension très importante. Donc, moi, ce qui me semble utile dès le départ, c'est d'expliquer ça aux personnes, c'est de leur dire, ben, vous n'êtes pas coupable de ça, il y a d'autres raisons, il y a votre histoire, tout ce que vous avez vécu, tous les chocs émotionnels de votre existence, vous conduisent à avoir un comportement qui fait que vous êtes en surpoids.
Et oui, ça peut être une question de la place à prendre, s'affirmer.
Exactement. Alors ça, c'est aussi un autre cas de figure qu'on peut rencontrer. C'est les gens qui n'ont pas eu leur place. Eh bien, j'ai pas ma place, donc je prends du volume. Et c'est souvent des notions qui sont intéressantes après à réintégrer quand on fait de l'EFT. Et par rapport au régime, si on regarde les chiffres, les études médicales, on s'aperçoit en fait que 96% des personnes reprennent du poids après avoir fait un régime. On peut dire que tous les régimes fonctionnent, hein, puisque de toute façon on mange moins, donc la plupart du temps, hormis les exemples que je citais tout à l'heure, les gens perdent du poids, mais on le reprenne dans les 6 mois qui suivent l'arrêt de ce régime.
C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo.
C'est ça, c'est l'effet yo-yo. En fait, souvent, la nourriture, c'est la seule chose que les gens ont pour calmer leur souffrance qui vient de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Donc, pendant le régime, ils se privent de cette chose qui leur apportait de la douceur. Le niveau d'intensité de souffrance augmente. Il augmente jusqu'à un certain point, il devient intolérable. Et c'est à ce moment-là que la personne arrête, craque et reprend évidemment non seulement tout son poids, mais bien souvent quelques kilos de bonus. Donc plus on fait de régime, et plus on grossit. Hein.
Et tu parlais de la culpabilité. Comment est-ce qu'on peut déculpabiliser les personnes qui sont dans ces problématiques?
Alors, il existe un test qui vient de la kinésiologie. Je rappelle à ce propos que, en fait, Gary Craig, qui est l'inventeur et le concepteur de l'EFT, s'est formé avec un psychothérapeute américain du nom de Roger Callahan, qui lui-même qui a créé la TFT, c'est-à-dire les outils qu'on peut retrouver dans l'EFT proviennent de là. Et Callahan, lui, s'était aussi appuyé à la fois sur la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi sur la kinésiologie appliquée. Et dans la kinésiologie, il existe un test qu'on appelle le test musculaire et qui permet de mettre en évidence la relation corps-esprit, de voir tout de suite ce que pense la personne au fond d'elle-même. C'est-à-dire, ça permet de mettre en évidence ce que l'inconscient pense. C'est super surprenant, tout le monde est vraiment bluffé par ce test. D'ailleurs, je relisais récemment La biologie des croyances, et Bruce Lipton en parle de ce test vers la fin de son ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce test? Eh bien, c'est que si le conscient et l'inconscient sont en phase, partagent la même chose, eh bien, le tonus musculaire est fort. Et puis, s'il y a une différence, c'est-à-dire si l'inconscient n'est pas d'accord avec le conscient, eh bien, le tonus musculaire diminue. Alors comment ça se passe? on demande à la personne de mettre son bras à l'horizontale et on va exercer une pression progressive et en douceur, hein, on n'est pas en train de faire un bras de fer, sur le poignet de la personne, juste à peu près, je dirais, 2-3 kilos pour exercer une pression. Et là, on demande à la personne de garder son bras à l'horizontale. Donc en fait, elle résiste peu et c'est comme si le bras était verrouillé. On sent que ça, voilà, ça, c'est juste ce niveau de tension auquel il faut arriver. Ensuite, donc là, on établit en fait notre référence de base. Ensuite, on va lui demander de dire son prénom. Alors par exemple, si on faisait ensemble, je dirais, ben, je m'appelle Maria, donc moi je te guide, je te dis je m'appelle Maria, et toi tu répètes la phrase, je m'appelle Maria. Et à ce moment-là, j'exerce une pression sur ton bras, et donc je sens bien que ça résiste. Maintenant, je vais te dire, je vais choisir un faux prénom, je peux même te faire prononcer un prénom masculin, moi je suis sûr de ne pas tomber sur ton deuxième prénom, parce que des fois c'est...
Oui.
Et je vais te dire je m'appelle Roger. Donc tu répètes, je m'appelle Roger, et là j'exerce une pression. Et là... Le bras baisse.
Et là, je ne tiens pas.
Exactement. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que chez certaines personnes, il n'y a quasiment même pas à appuyer sur le bras. Déjà, il flanche tout seul.
Oui.
Donc, la personne comprend instantanément que quand c'est oui, ça tient, et quand c'est non, quand c'est une fausse réponse, eh bien, ça lâche. On peut refaire le deuxième test avec l'âge. Elle dit son vrai âge, ça tient, elle dit un faux âge. Ça lâche. Et même, ça, c'est, je me régale toujours de le faire avec des dames, on donne un âge moindre et on voit bien que la personne essaye, veut absolument forcer et n'y arrive
elle
pas.
Elle aimerait bien.
Ouais, elle aimerait bien, oui. En fait, on voit bien que ces informations qui sont profondément ancrées en nous, puisque notre prénom, c'est la première chose qu'on reçoit quand on arrive sur cette terre, et donc forcément vraiment profondément ancrée. Et notre âge, c'est notre horloge biologique, donc ce sont les informations qui sont puissamment encodées dans notre inconscient. Une fois qu'on a fait le préalable pour donc en fait montrer à la personne comment ça se passe, là on va lui faire dire une phrase qui va nous intéresser directement, qui va être « j'ai envie de maigrir ». Et là on va faire le même test. Et très souvent, ce qu'on observe, c'est que le bras baisse à ce moment-là.
Oui, oui.
Donc la personne,
il y a quelque chose en nous qui n'a pas si envie que ça de maigrir, en fait.
Exactement. Et à ce moment-là, la personne nous regarde avec des grands yeux en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Et on va encore plus loin. On va lui dire « mais tant de répéter, j'ai pas envie de maigrir. » Et là, la surprise, c'est que le bras, il tient. Et on va aller un peu plus loin si on veut rentrer un peu dans le côté provocation, c'est-à-dire « j'ai envie de grossir. » Et là, le bras tient aussi. Et là,
il monte.
Complètement surprenant. Donc, ça permet vraiment, en fait, ce test de créer une véritable relation thérapeutique, une alliance thérapeutique entre le praticien et son client ou sa cliente. Pourquoi ça permet de créer cette alliance? Parce que si on commence à avoir un discours du style « mais vous savez qu'une partie de vous, votre inconscient, veut certainement pas que vous maigrissiez », c'est tellement
bien sûr
comme approche que la personne risque de ne pas comprendre si elle n'a pas des notions plus approfondies hein, de thérapie ou de psychologie. Donc, avec ce simple test, on crée déjà ça. Et ça permet aussi d'ouvrir sur un discours qui, lui, va être déculpabilisant, qui va dire, voilà, consciemment, bien sûr vous voulez maigrir consciemment, bien sûr que vous faites des régimes avec votre volonté, etc. Mais vous êtes en train de vous battre contre quelque chose qui est en vous, qui est beaucoup plus puissant, qui est votre inconscient. À partir du moment où vous comprenez ça, eh bien, on va faire en sorte, et on va utiliser le EFT pour changer ça. Donc ça, c'est vraiment le préalable. Et la personne s'est dit, mais alors je comprends pas, pourquoi est-ce que je suis comme ça, pourquoi est-ce qu'en fait mon inconscient aura envie de maigrir? Et bien en fait la raison, c'est qu'il a une bonne raison.
Oui.
Et cette raison-là, c'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire, et la somme de ces bénéfices secondaires, qui sont un peu cachés pour la personne, et bien crée dans la personne ce que Roger Callahan et Gary Craig ont mis en évidence et appelé l'inversion psychologique.
Oui, l'inversion ou l'autosabotage.
Voilà, c'est ce qui est responsable de l'autosabotage, c'est la somme de tous les bénéfices secondaires, donc de tous les bénéfices inconscients, qui font que, de toute façon, on ne peut pas maigrir. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une personne qui est en très fort surpoids, qui fait une cure à 800 calories jour ne perd pas un gramme. Sinon qu'une partie d'elle-même sous-jacente freine des cas de fer pour dire mais non, je ne veux pas le perdre, j'en ai vraiment besoin. Parce que l'inconscient, sa mission première, c'est notre survie, c'est de nous maintenir en vie. Et
l'inconscient de nous protéger.
Considère que le surpoids, c'est une protection vitale pour exister. Il n'en a rien à faire du physique, de la silhouette qu'on peut avoir ou de la taille qu'on va mettre pour s'habiller, quoi. Donc ça, c'est vraiment la base de tout, vraiment quelque chose qui est à comprendre et à intégrer. Et en plus, c'est formidablement déculpabilisant pour les personnes. Comprendre que, voilà, c'est pas notre faute si on est en surpoids, c'est qu'il y a une bonne raison inconsciente, et c'est à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à travailler avec l'EFT.
Oui. Alors, cette inversion psychologique, cet auto-sabotage, est-ce qu'il est toujours présent?
Alors, chez les personnes qui parviennent pas à maigrir, hein, d'après mon expérience, oui, il est toujours présent. En fait, d'une manière générale, hein, par rapport à l'ensemble des problématiques auxquelles s'adresse l'EFT, Gary Craig, lui, il estime que, en général, cette inversion psychologique, elle est présente à peu près dans 40% des cas, tous symptômes confondus. Mais vraiment, dans les problématiques de surpoids, ce pourcentage, il explose. Donc, heureusement, l'EFT, c'est vraiment un outil extra pour ça, redoutablement efficace, qui nous permet de résoudre rapidement le problème grâce à la première phase qu'on appelle la phase de préparation.
Donc, d'accord.
Donc, en fait, c'est cette phase de préparation, c'est consiste en fait à tapoter sur le point karaté, c'est-à-dire le tranchant de la main, en mettant en place une phrase. Donc, par exemple, si c'est le cas typique, voilà, on fait le test, on s'aperçoit qu'il y a une raison inconsciente qui fait que la personne elle a envie de grossir et qu'elle ne veut pas maigrir. Donc, on va pouvoir faire, et la personne est vraiment interloquée, elle dit ça, franchement, je ne comprends pas. Souvent, c'est ça, hein, qui se passe. C'est que les gens prennent conscience de ça, mais n'arrivent pas à comprendre au départ d'où ça vient. Donc là, par exemple, on peut faire une phrase générale. Hein, on dit qu'en EFT, il faut être précis, sauf quand il n'y a rien d'autre, qu'il faut bien qu'on démarre. Là, la phrase de préparation va nous permettre en fait, d'être général et puis petit à petit de devenir de plus en plus spécifique. Donc, on va commencer à faire une phrase du genre, même si une partie profonde ou inconsciente de moi ne veut pas que je maigrisse, je m'accepte, ou on peut dire même, j'accepte cette partie de moi, j'accepte son intention positive, et je m'ouvre à la possibilité de changer. C'est une phrase un peu longue, on va la répéter 3 fois cette phrase longue, l'important c'est de bien, j'allais dire, savourer ce qu'on dit, c'est-à-dire de bien s'imprégner de cette phrase, voilà, d'avoir son esprit bien présent en fait. Hein. L'idée c'est d'activer vraiment notre côté émotionnel quand on prononce cette phrase, tout en tapotant le point karaté.
D'accord. Est-ce que dans ton expérience, cette phrase est facile à dire pour les personnes qui sont en problématique de surpoids?
Alors, elle n'est pas forcément facile à dire parce que si on regarde la phrase la plus courante de ST, c'est « je m'aime et je m'accepte complètement ». Bien souvent, les gens, ils s'acceptent pas complètement et ils s'aiment pas. Alors,
même que la première fois, on va pas forcément proposer celle-là. On va faire plus soft.
En fait, on peut… Moi, ce que je fais, c'est que je leur dis, OK, l'idée, c'est pas d'accepter le problème, d'accepter les kilos supplémentaires. L'idée, c'est de vous accepter en tant que personne. Alors, des fois, il y en a qui peuvent dire, OK, ben d'accord, et qui vont dire la phrase. Ou alors, simplement, de changer la formulation. Au lieu de dire, je m'aime et je m'accepte complètement, on dit simplement, je m'ouvre à la possibilité de changer. Ou si on parle de la partie inconsciente de soi, on peut dire, je l'aime, cette partie de moi. J'accepte l'intention positive et je lui demande de changer. C'est des formulations un peu différentes qui permettent justement aux personnes de rentrer dans le processus de EFT beaucoup plus facilement. Donc voilà, on va donc tapoter là où on va stimuler le point sensible qui se trouve sur la poitrine, en-dessus du sein. Et puis, rien qu'en faisant ça, c'est cette phase-là supprime l'inversion psychologique. D'ailleurs, s'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, si vous testez à nouveau « j'ai envie de maigrir » juste après avoir fait simplement cette phase de préparation, vous allez constater que le bras, il tient ce coup-là. Elle a bien été faite, la phase de préparation. Et cette phase de préparation lève l'inversion psychologique. Ça ne veut pas dire qu'elle résout le problème, ça veut dire qu'elle va permettre à la séquence d'EFT de bien fonctionner.
Oui, ou de n'importe quel traitement d'ailleurs.
Exactement. Voilà.
Alors, une fois que cette inversion psychologique est levée, est-ce que c'est parti et la personne peut commencer à maigrir?
Alors, pas tout le temps, en fait. Hein, je pense qu'il faut bien aussi comprendre comment ça se passe dans notre cerveau. Eric Kandel a reçu le prix Nobel de médecine en l'an 2000. Il explique la chose suivante. Quand on entretient une même pensée pendant une heure, on double le nombre de connexions synaptiques entre les neurones qui renforcent cette pensée. C'est-à-dire que si j'ai une croyance qui tourne à l'intérieur de moi, une petite voix qui dit « tu n'y arriveras jamais, il ne faut pas, etc. » Enfin, des choses, des pensées négatives comme celle-là, plus on l'entretient, plus on renforce, on va dire, sa véracité. Donc, quand on va, c'est comme si, grosso modo, on crée une espèce de gros tuyau de pensée en rapport avec une croyance négative comme « j'y arriverai jamais ». Quand on lève l'inversion psychologique, c'est comme si on créait à côté une petite connexion nouvelle. Donc, comme cette connexion, elle est nouvelle, elle est bien présente, on s'aperçoit que, effectivement, ça change, le bras tient. Mais si demain, ou si dans les jours qui suivent, je me retrouve dans une situation habituelle qui me stresse, le stress, si on peut prendre une image, c'est comme s'il y avait un niveau d'eau qui se met instantanément à monter et qui a besoin absolument de s'évacuer. Et le niveau d'eau, eh bien, comme il y a beaucoup d'eau, elle va prendre le chemin le plus facile, c'est-à-dire le gros tuyau. Et à nouveau, je vais recommencer à renforcer mes connexions. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il va falloir vraiment être persévérant. Et on observe, surtout dans les problématiques de poids, que la persévérance paye beaucoup.
Et oui, parce qu'il faut nourrir cette nouvelle connexion, en fait. Il faut l'alimenter
et la faire grandir. Il faut la nourrir et il faut continuer à casser l'autre. Et ce qui permet de casser l'autre, eh bien, c'est les séquences de EFT. Également, ce que je voulais aussi souligner, c'est qu'il y a un autre problème qu'on connaît bien en kinésiologie ou en psychologie énergétique, qui est moins connu dans le domaine de l'EFT, parce qu'on n'en parle pas dans la plupart des enseignements, qui s'appelle la désorganisation neurologique. La désorganisation neurologique, c'est que notre polarité plus-moins corporelle ne fonctionne plus. On peut être en surénergie, en sous-énergie ou en homolatéralité. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Eh bien, quand un bébé naît, de 0 à 6 mois, son cerveau n'est pas encore complètement terminé, d'ailleurs il termine beaucoup plus tard, son évolution, et le bébé ne peut mobiliser qu'un hémisphère seulement, soit le droit, soit le gauche. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir bouger la jambe droite en même temps que le bras droit, mais il ne pourra pas croiser. C'est qu'à partir de 6 mois qu'il peut commencer à ramper et que là justement il commence à naviguer un petit peu plus facilement dans la maison. Et sous l'influence du stress, sous l'influence de différents facteurs d'ailleurs, on peut retrouver cette homolatéralité. C'est comme si, au lieu que mon cerveau droit contrôle ma partie gauche et vice-versa, je redevenais un petit peu dans le mode de fonctionnement des bébés. La conséquence de ce fonctionnement, enfin de ce dysfonctionnement plus exactement, c'est que ça va perturber considérablement le résultat d'une ronde de EFT, indépendamment de l'inversion psychologique. Donc c'est très important, dans certains cas, d'avoir recours à des corrections énergétiques. Et vous pouvez trouver facilement sur Google la routine énergétique, qui est une vidéo de Donna Hayden. Il y a d'autres personnes également qui montrent ça.
Oui.
Ça permet de corriger cette désorganisation neurologique. En fait, pour reprendre aussi une image, on pourrait dire que la désorganisation neurologique, c'est comme si on avait une sorte de filtre qui filtrait l'efficacité de l'EFT. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? Eh bien, quand on est avec un client ou une cliente qui est en train de faire du tapping sur elle, on s'aperçoit que tout d'un coup, la personne qui est par exemple en train de tapoter sous l'œil, son doigt commence à partir à l'extérieur de sa joue. Et si on lui dit « mais allez-y, c'est sous l'œil, remettez-vous bien sur le point », elle a de la difficulté à le faire. Le cerveau émet un signal que le corps n'arrive pas à bien suivre à la lettre, en fait. Donc, Voilà, c'est un point que je tiens aussi à souligner. Dans certains cas, alors on pourrait dire 5 à 10%, on observe ce genre de phénomène, et tant qu'on ne l'a pas corrigé, eh ben on se dit, mais ça marche pas l'EFT. Donc une fois qu'on a
D'accord,
fait
oui.
ça, là on peut vraiment commencer à y aller.
D'accord. Alors justement, pour nos auditeurs et nos auditrices, comment commencer ce travail de manière efficace?
Alors, une fois que ça c'est fait, qu'on a levé, on va dire, ces blocages,
Les obstacles, oui.
il y a, enfin, je vais simplifier, mais on peut dire qu'il y a deux cas qui se présentent. Soit la personne, elle ne sait pas pourquoi, ni quand elle a commencé à grossir, elle dit des choses comme j'ai toujours été comme ça, on est tous comme ça dans la famille, non, il ne s'est rien passé de particulier, j'ai pas eu d'événements traumatisants, ok? Soit la personne, elle relie tout de suite sa prise de poids à un événement du passé. J'avais récemment une personne en consultation, elle me dit, j'ai eu une très très violente altercation avec mon père, ça s'est passé il y a un an et demi, en un an et demi, j'ai pris 14 kilos. Ça fait presque 1 kilo par mois. Donc là, je dirais que c'est plus facile, quoi. Dans le premier cas, si la personne, elle ne sait pas pourquoi, a priori, donc on peut commencer à travailler sur des phrases assez larges, assez vagues, du genre, même si une partie inconsciente de moi ne veut pas que je maigrisse, comme je le disais tout à l'heure, et que je ne comprends pas vraiment pourquoi, ça on le rajoute, car il n'y a absolument aucune raison, ça c'est les mots de la personne que je reprends, je m'aime et je m'accepte complètement. On va faire notre ronde comme ça, on répète donc 3 fois la phrase, soit en tapotant sur le point karaté, soit en massant le point sensible. On observe bien la personne, ce qu'elle ressent. Il faut qu'elle rentre petit à petit dans cette pensée. Et puis ensuite, on démarre la séquence. Donc, elle va commencer à tapoter au début du sourcil. Et elle va dire, il y a une partie en moi qui ne veut pas maigrir. Elle passe au coin de l'œil. Elle peut changer la phrase, hein, à condition de rester, bien évidemment, sur le même thème. Elle peut dire, je comprends pas vraiment pourquoi. Je comprends vraiment pas pourquoi, en tapotant sous l'œil, après sous le nez en disant il n'y a absolument aucune raison, etc. Voilà, elle reste concentrée avec son problème et elle fait ce tapping. En fait, ce qui se passe, hein, c'est que quand on fait cette ronde de tapping, naturellement, on désengage le système sympathique, c'est-à-dire l'accélérateur de notre système nerveux, et on engage le système parasympathique. C'est comme si on freinait. On a moins de stress et on est donc plus en contact avec ce qu'on sait, avec ces cognitions qui se trouvent en fait derrière notre front au niveau cérébral. Donc la personne, elle a naturellement et très souvent, comme ça, elle commence à se connecter avec ses idées, elle a plus d'idées et ça lui donne plus d'accès à ses souvenirs en fait. Voilà,
D'accord.
ça la connecte en fait plus rapidement à son problème de fond. Et ensuite, eh bien, on peut commencer à cheminer, c'est-à-dire qu'elle redevient, elle passe dans le deuxième cas, elle se connecte avec ah ben oui, si, peut-être, il s'est passé ci et ça dans ma vie, et donc là, on va aller creuser. Si la personne, elle est dans le deuxième cas, eh bien, on va aller creuser en détail les raisons. Alors, un exemple, par exemple, j'avais il y a quelque temps une jeune femme de 28 ans en surpoids depuis son adolescence et qui parvient pas, malgré tous les régimes qu'elle a pu faire, à éliminer ses 15 kilos en trop. Donc, je l'ai aidée pour l'aider à exprimer en fait ses émotions, parce qu'on voit bien qu'elle est dans le malaise quand elle n'est pas bien du tout quand elle pense à son poids. Je l'aide à se poser des questions. Et donc, par exemple, les questions, c'est qu'est-ce qui s'est passé au moment de votre adolescence? Est-ce que vous avez en mémoire des moments difficiles qui pourraient être liés soit à la nourriture, soit au corps? C'est un peu un travail de détective qu'on fait avec la personne. Et puis, très souvent, elle se dit, ah bah oui, si. Voilà. En l'occurrence, dans cet exemple, elle me dit, mais j'ai en mémoire une phrase de ma mère que franchement, j'ai toujours pas digérée. D'ailleurs, à ce propos, c'est assez marrant de voir que la connexion entre les termes employés par les personnes et l'état de surpoids, hein. Genre, par exemple, il faut que je sois forte, oui, mais dans telle situation, je ne faisais pas le poids, je vous reparlerai d'autres exemples tout à l'heure, c'est toujours assez symbolique et en lien étroit. Donc elle me dit, voilà. Cette phrase que j'ai toujours pas digérée, eh bien, en fait, on se promenait, on faisait les boutiques avec ma jeune sœur et puis ma maman. Et à un moment, il y a un groupe de jeunes qui est passé à côté de nous. Et puis, ils ont murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. Ils ont éclaté de rire. Et ce qui m'a, en soi, ça ne m'a rien fait, mais ce qui m'a vraiment choqué et mis en colère, c'est que ma mère et ma sœur aussi ont rigolé. Et puis, donc, je leur ai dit, mais pourquoi vous rigolez comme ça? Elle ne voulait pas me le dire, donc ça m'a mis encore un peu plus en colère. Et puis, au bout d'un moment, ma mère, elle m'a lancé, mais en souriant, je revois bien son attitude et son regard à ce moment-là. Elle me dit, ils ont dit que tu pourrais être mignonne si tu n'avais pas un aussi gros cul. Donc, on imagine ce que ça fait et ce que ça provoque dans le cerveau et dans tout l'être d'une personne qui est à l'adolescence. Comment c'est difficile. Cette période d'adolescence, c'est vraiment un coup de poignard, quoi. Donc là, à ce moment-là, elle se met à pleurer et puis elle me dit, mais j'ai jamais pu comprendre pourquoi la mère a pu rire comme ça au lieu de prendre ma défense. D'abord, elle aurait dû dire autre chose ou me défendre ou interpeller les garçons, je sais pas. Donc en fait, ben, comme elle, c'est ça qui sort, on travaille avec cette phrase et on dit, même si ce jour-là la mère m'a trahi, je m'aime et je m'accepte complètement, je lui pardonne. Alors, je lui pardonne, c'est toujours un peu délicat, parce que franchement, au départ, la jeune fille, là, elle n'avait pas du tout envie de pardonner, hein. Donc, ça nécessite peut-être une explication qui est de dire, ok, l'antidote de la colère, c'est le pardon. Alors, c'est pas un pardon au sens religieux du terme, c'est juste une manière de lâcher prise. Donc, si on...
Oui, de lâcher l'affaire.
Voilà, si on peut pas dire je pardonne, on peut dire je lâche l'affaire. Moi, j'ai une formulation que j'aime beaucoup. Quand il y a eu une agression, quand il y a eu quelque chose de très violent, et qu'on continue à entretenir de la colère par rapport à cette personne, même des fois des années après, d'ailleurs c'est assez fou, parce que la personne qui nous a fait du mal, elle s'en fout complètement, elle a oublié complètement ce qui s'est passé, alors que nous, on est toujours en train de nourrir cette colère. C'est vraiment comme si on tissait un lien de nous vers cette personne qu'on entretenait avec notre propre énergie. Et donc ça nous fatigue, ça peut même aller jusqu'à créer plein de complications. Donc c'est urgent de lâcher ça. Et pour aider des fois les personnes à lâcher leur colère, je leur dis rien que pour me venger, je lui pardonne. Et ça fait sourire et c'est vrai que ça passe plutôt pas mal. Et il y a une phrase aussi de Nelson Mandela qui était interviewé un jour par un journaliste à sa sortie de prison, enfin après avoir été, non, après avoir été élu, et qui dit, mais comment vous pouvez faire pour vous asseoir à la même table de négociation avec vos anciens geôliers? Et il y a eu une phrase super profonde, je ne peux pas vous la citer exactement, mais c'était quelque chose du genre, mais il faudrait être fou pour boire le verre de poison en pensant que c'est comme ça qu'on va tuer son ennemi. C'est une métaphore que Yves Vautier utilise souvent et que je lui ai repiqué, je repique volontiers, pour aider les personnes à bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que bien souvent, on est en colère contre quelqu'un, on est en train de s'empoisonner, l'autre personne, elle est au courant de rien, et voilà. Et il y a beaucoup, j'insiste hein, sur la colère parce que très souvent, chez les personnes en surpoids, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de colère. D'une manière générale, si en plus il y a de la douleur, en plus du surpoids, il y a de la douleur, derrière, il faut aller chercher la colère. Qu'est-ce qui vous anime en colère comme ça et vraiment le travailler. Alors je reviens à mon exemple. Au bout d'un moment, elle commence à s'apaiser complètement. Elle se calme. Je lui redemande, alors là, vous en êtes où par rapport à... Il y avait de la tristesse au départ, ensuite la colère est venue. Donc à chaque fois, entre les rondes, hein, on pense toujours à réévaluer le niveau où on en est. Bah, elle me dit, ça va bien. Et là, elle commence à parler. Et elle me dit, finalement, je trouve ça plus stupide que méchant. Et puis, elle réfléchit. Elle me dit, bah, je crois que ma mère a toujours été jalouse de moi parce que j'étais mignonne et que, bah, à l'adolescence, je lui volais peut-être la vedette. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent entre les mères et les filles. Hein. Alors, on enchaîne. Et je lui propose une autre phrase du genre, même si j'ai grossi pour mériter l'amour de ma mère. Je m'aime et je m'accepte complètement et je me pardonne. Et là, c'est marrant parce que ça, c'est une proposition que je lui fais, mais j'avais senti qu'il pouvait y avoir quelque chose comme ça. Donc je me suis permis de lui proposer, bien que ce n'était pas ses propres mots, mais elle a pris la phrase tout de suite, hein, la preuve c'est que quelques larmes sont sorties. Et là après, voilà, elle sourit, elle s'exprime, je crois que j'ai compris maintenant pourquoi j'ai pris du poids, elle me dit. Je lui explique la méthode derrière ça, je le fais tout le temps avec les patientes, c'est-à-dire je garde 10 minutes à la fin de l'heure pour leur expliquer vraiment comment faire. Je leur donne un petit guide gratuit qui est en circulation sur Internet, qui est téléchargeable sur mon site stuniver.com aussi. Et c'est un guide qui est utile, c'est une soixantaine de pages. C'est un condensé du manuel deuxième édition de Gary Craig, qui devrait sortir prochainement dans son édition complète. Et c'est incroyable parce qu'elle a vraiment travaillé toute seule, elle l'a fait très sérieusement et on s'était. Enfin, je l'ai revue par la suite, franchement, j'ai du mal à la reconnaître tellement qu'elle avait minci, quoi. Et très souvent, le plus surprenant, c'est de voir non seulement que les personnes perdent du poids, mais qu'au niveau de leur personnalité, elles changent. J'étais l'année dernière au salon du bien-être à Paris, j'ai rencontré une personne qui avait perdu 35 kilos suite à son passage sur Mental Film. Et elle me disait, il y a une vidéo d'elle hein, qui est visible sur YouTube, je crois, où elle explique qu'en fait, les gens qui la connaissent la rencontrent et ils la regardent, ils lui disent, mais oh là là, qu'est-ce que tu as changé, tu es rayonnante. Il lui parle d'abord de sa personnalité et puis après, il dit, mais tu n'aurais pas perdu un peu de poids? 35 kilos, on imagine.
Oui, ça se voit quand même, oui.
Ouais. Voilà.
Oui.
Donc, en fait, bon, moi, je tiens à insister hein, sur le point, c'est cette notion d'auto-sabotage, toutes les raisons inconscientes qui font qu'on a pris du surpoids. L'exemple de la personne dont je vous parlais, c'est finalement le fond du problème, c'est que elle avait besoin de l'amour de sa mère, et quelque part, c'était certainement pas la première fois qu'elle était en compétition avec sa maman et que bah, elle prend du poids pour grossir, pour finalement, comme ça, elle est moins désirable, elle ne vole pas
Oui, pour rester en sécurité par rapport à ça.
Exactement. Voilà.
D'accord. Donc, est-ce que c'est là, on voit bien que c'est pas forcément une question de volonté.
Non, c'est de
Et
toute
ça rejoint
façon, c'est vraiment
sur la
rarement une
culpabilité.
question de volonté. Je parle pas de l'amincissement de quelques kilos parce que on a fait des provisions et des réserves pendant l'hiver et puis bon arrive le printemps et on se dit tiens il faut que je m'insiste pour entrer dans mon 38. Je parle vraiment des surpoids plus importants et qui sont là récurrents et qu'on n'arrive pas à déloger malgré tous nos efforts. Hein. Donc c'est vraiment la cause de tout ça, c'est l'auto-sabotage. Hein. C'est vraiment la raison pour laquelle des fois on a l'impression d'être notre pire ennemi et qu'on n'arrive pas à atteindre les nouveaux niveaux de développement auxquels on aspire. C'est vraiment ce qui sous-tend, ce qui contribue au blocage psychologique et à l'inversion psychologique. Avant, en fait, avant cette découverte, on attribuait ce problème à des choses comme le manque de volonté, le manque de motivation, la distraction, la faiblesse de caractère. Il hein, faut vraiment répéter ça. Enfin, si vous êtes thérapeute, d'abord je le dis aux personnes qui nous écoutent et qui sont là pour elles-mêmes, c'est vous n'êtes pas des lâches, vous n'êtes pas coupables, vous ne manquez pas de volonté, il faut vraiment vous sortir ça de la tête, quoi. Si vous n'arrivez pas à éliminer définitivement votre surpoids, c'est pas votre faute. C'est qu'il y a vraiment une raison profonde. Et que même si vous faites déjà de l'EFT, et que vous. Parce que souvent j'ai des personnes, j'en avais hier, j'animais une conférence par le biais du web pour des personnes de Mental Film, j'ai souvent ça, des personnes qui me disent, mais je pratique l'EFT, je pratique, mais j'ai pas de résultat. En fait, si on n'a pas de résultat, c'est que on a en nous des défenses qui nous protègent et qui nous empêchent d'arriver vers ce problème de fond, vers ce qui est à l'origine de ça. Et en fait, c'est tellement douloureux que le fait de s'approcher, eh bien, notre cerveau est bien fait et il nous protège. Et seul, eh ben, des fois, on ne peut pas y aller. Et on a besoin d'être accompagné, on a besoin de quelqu'un qui tient la corde, quoi. Et on a besoin de se sentir en sécurité avec son thérapeute. Et ça, c'est notre rôle à nous que de vous aider à débloquer tout ça. Et une fois que c'est débloqué, eh bien, vous pouvez prendre le relais derrière et continuer à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre encore. Ce qui fait que vous n'êtes pas lié, vous n'êtes pas sous la domination permanente d'un thérapeute ou d'un coach. Parce que l'essentiel du travail en EFT, c'est d'aller vite, c'est d'autonomiser les clients. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et si un jour vous tombez sur un thérapeute qui essaye, d'abord qui ne vous apprend pas l'EFT, et puis qui essaye de vous coller un maximum de séances, partez en courant, fuyez. C'est vraiment à l'opposé de l'esprit de l'EFT.
Oui, tout à fait. Ah. Est-ce que tu serais d'accord pour proposer une petite ronde par rapport à cette culpabilité, justement? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup que tu n'as qu'à arrêter de manger, tu n'as qu'à choisir tes aliments, tu mets pas assez de volonté, tu fais pas assez de sport. Et c'est lourd quand on a tout essayé et qu'on n'y arrive pas.
Oui, absolument.
On peut le faire ensemble?
Oui, bien sûr, on peut le faire ensemble. Moi, j'aime beaucoup les phrases à rallonge, donc j'ai tendance à parler beaucoup. Quand je fais des séminaires, j'oublie complètement les pauses à chaque fois. Donc, je reprends la même méthode.
Ça s'appelle la passion, Jean-Michel.
on peut le faire beaucoup plus court, mais pour la culpabilité, moi, j'aime bien mettre plein de choses, plein d'aspects dans cette phrase de préparation, parce que ça permet vraiment de la vivre, quoi. Donc, oui, ce que je propose de faire, c'est de sortir vos outils, c'est-à-dire vos deux doigts et puis l'autre main, et même vos quatre d'ailleurs pour le point karaté, et de commencer à tapoter sur le point karaté avec une phrase, par exemple, même si on m'a culpabilisé toute ma vie par rapport à mon poids, qu'on m'a répété que j'étais trop grosse.
Alors attends, arrête-toi que je puisse répéter les phrases.
Ah oui, on va se faire à deux, oui.
Oui, voilà.
Même si on m'a culpabilisé toute ma vie.
Même si on m'a culpabilisé toute ma vie. Et que j'en ai vraiment ras-le-bol.
On m'a toujours dit que c'était de ma faute. Je l'ai tellement entendu que j'ai fini par le croire. Je m'aime. Je m'accepte comme je suis. Temporairement, on peut rajouter.
Pour l'instant.
Voilà, pour l'instant. Je m'ouvre à la possibilité de changer.
Et je m'ouvre à la possibilité de changer.
Et là, on peut même rajouter une phrase que j'aime beaucoup, c'est du genre « La réalité, c'est que j'y suis pour rien. »
La réalité, c'est que moi, je n'y suis pour rien.
C'est juste la conséquence de ce que j'ai vécu.
C'est juste la conséquence de ce que j'ai vécu.
Voilà, et on revient au départ. Même si on m'a toujours culpabilisé. On m'a toujours dit que c'était de ma faute si j'étais trop grosse. Je m'aime et je m'accepte complètement. La réalité, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a une belle personne. Et que ce surpoids, c'est juste la conséquence de ce que j'ai vécu. Même si on m'a répété tellement, tellement souvent que c'était de ma faute si j'étais en surpoids. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'ouvre à la possibilité de changer. Et je me pardonne. La réalité, c'est que c'est mon inconscient qui me protège. Et même si c'est difficile, je peux lui dire merci. Ensuite, on commence à tapoter au début du sourcil. Et on m'a répété que c'était de ma faute que j'étais grosse. Au coin de l'œil, c'est ma faute si je suis trop grosse. J'ai fini par croire que c'est de ma faute.
On passe sous l'œil?
Oui, sous l'œil.
Je vais finir par croire que c'est de ma faute.
Sous le nez, j'ai honte d'être trop gros ou trop grosse. Sous la bouche, c'est ma faute, je Je me sens coupable.
C'est de ma faute, je me sens coupable.
On m'a tellement dit que c'était de ma faute.
On m'a tellement dit que c'était de ma faute.
Sous le bras, au milieu du bandeau de soutien-gorge pour les dames, c'est de ma faute.
C'est de ma faute.
Ensuite, sous les seins, juste sous la baleine de soutien-gorge, c'est de ma faute.
C'est de ma faute.
Ensuite, on va faire l'ongle du pouce. À la base de l'ongle du pouce, du côté extérieur, c'est de ma faute.
C'est de ma faute.
L'index, c'est de ma faute si je suis trop grosse.
C'est de ma faute si je suis trop grosse.
Le majeur, on me l'a toujours dit que c'était de ma faute.
On m'a toujours dit que c'était de ma faute.
Le petit doigt, c'est vraiment de ma faute.
C'est vraiment de ma faute.
Le point karaté, c'est entièrement de ma faute.
C'est entièrement de ma faute.
Et on peut rajouter le point de gamme qui est sur le dos de la main. C'est vraiment de ma faute.
C'est vraiment de ma faute si je suis trop grosse.
Voilà. Et là, on va rajouter une ronde. Donc, on va rajouter une ronde que moi, je fais après avoir bien nettoyé le négatif. Mais là, on va le faire tout de suite.
Oui, là, on le fait en accéléré. Hein.
Voilà. Au début du sourcil, on va dire, et si c'était pas de ma faute?
Et si ce n'était pas de ma faute?
Au coin de l'œil, et si c'était une protection?
Et si c'était une protection?
Et si c'était quelque chose qui me permettait de prendre ma place sous l'œil?
Et si c'était quelque chose qui me permettait de prendre ma place?
Sous le nez, et si on m'avait menti?
Et si on m'avait menti?
Et si c'était vraiment pas ma faute?
Et si c'était vraiment pas de ma faute?
Et si c'était mon inconscient qui avait décidé ça?
Et si c'était mon inconscient qui avait décidé ça?
Et si c'était pour me protéger, sous le bras?
Et si c'était pour me protéger?
Sous le sein. Et si je pouvais lui dire merci à mon inconscient?
Et si je pouvais lui dire merci à mon inconscient?
Sur le pouce, l'ongle du pouce. Et si je pouvais le remercier de m'avoir protégé?
Et si je pouvais le remercier de m'avoir protégé?
Sur l'index. Et si je pouvais lui demander de changer?
Et si je pouvais lui demander de changer?
Le majeur. Et si je pouvais lui demander de trouver une autre stratégie?
Et si je pouvais lui demander de trouver une autre stratégie?
Le petit doigt. Et si je pouvais m'ouvrir à la possibilité de changer?
Et si je pouvais m'ouvrir à la possibilité de changer?
Le point karaté. Et si je pouvais commencer à maigrir maintenant?
Et si je pouvais commencer à maigrir maintenant?
Et puis, le point de gamme sur le dos de la main. Et si je pouvais le mettre en place maintenant?
Et si je pouvais le mettre en place maintenant?
Et si je pouvais maigrir maintenant?
Et si je pouvais maigrir maintenant?
Voilà, vous respirez profondément. Et conseillé à ce moment-là, c'est de boire un petit peu d'eau.
Oui, ça peut donner soif, oui.
Ce que j'en profite pour faire, d'ailleurs. Et puis, vous pouvez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, sentir ce qui se passe. Comment est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qui est venu aussi? Parce que bien souvent, pendant une séance d'EFT, il se passe des choses. On a des images pour certains. Pour d'autres, on entend. On va entendre carrément les gens, la voix des personnes, de sa mère par exemple, qui dit « mais t'as vu comme t'es », ou de son père, « mais t'as vu comme t'es, t'es vraiment trop grosse ». Toutes ces phrases qu'on a engrammées et qui font mal. Donc, ou ressentir des sensations de lourdeur, de chaleur, etc. Donc, après cette première ronde, là, ça devient beaucoup plus spécifique. Vous allez reprendre le souvenir, même si j'entends encore la voix de mon père qui me dit « t'es qu'un laidron », je m'aime et je m'accepte complètement. On peut imaginer ce que ça fait, je le vois, moi, des fois j'en ai les larmes aux yeux d'entendre ce qu'on peut dire à sa fille de la part d'un père.
Oui, c'est comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure, c'est vrai que c'était un poignard.
Exactement, donc voilà, ça c'est spécifique, et ça, on va le traiter derrière. Donc c'est, même si j'entends la voix de mon père qui me dit, ouvre les guillemets, je m'aime, je m'accepte complètement. Et puis, voilà, on fait un grand nettoyage, on mesure l'intensité au départ et on arrête quand on est vraiment à zéro et qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand on est capable de dire à haute voix, oui, mon père, quand j'étais petite, il me répétait ça et ça et ça, et c'était vraiment douloureux, et qu'on ne ressent plus rien, ou même ce qui se passe aussi, c'est un changement cognitif. C'est-à-dire que notre regard sur ce qu'il nous disait, ou les pensées changent. En disant, bah, pff, oui. Bien souvent, j'entends, ouais, finalement, il m'a jamais dit je t'aime, mais il pouvait pas me donner ce que lui, il a jamais reçu, parce qu'il était,
Oui.
il était aussi abîmé par ses parents, etc. Donc, c'est comme si on se dégageait le nez du problème, on prend la distance. Voilà. Et c'est
Oui, il y
ça
a une
qu'on,
résilience.
ouais, c'est ça qu'on cherche, en fait, avec l'EFT, c'est changer le regard sur ce qu'on a vécu. À partir du moment où mon regard change sur la réalité de ce que j'ai vécu, eh bien mes émotions changent. Et si mes émotions changent, mes comportements changent. Et mes comportements ont des résultats qui viennent invariablement renforcer mes croyances. Donc ça veut dire aussi que ma croyance a changé. Et là, bah, je m'ouvre vers une nouvelle vie, quoi. C'est
Alors,
un
s'il n'y a
processus.
rien qui sort pendant ce premier tapotage, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question pour chercher cette racine?
Alors. On peut faire aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment coupées de leur émotionnel. Ce qu'elles ont vécu, ça leur a fait tellement mal que les émotions, le fait de ressentir une émotion égale danger. Il y a une, on appelle ça l'alexithymie, c'est le fait d'être coupé de ses émotions, de ne pas pouvoir les nommer. Donc, pour moi, tout se passe avant avec l'EFT. La séquence de tapping, c'est vraiment, c'est toujours pareil, c'est du répétitif, c'est un quasi-rituel, mais c'est vraiment simple parce qu'il n'y a que 14 points, voire 8 points dans la version plus courte où on finit par tapoter sur le haut de la tête. C'est pas ça l'essentiel, hein. Bien souvent, on a tendance à passer à cibler ça, mais tout se fait avant. Ce qui est vraiment très important, c'est la préparation. C'est vraiment l'étape capitale qui permet de se centrer sur le problème. Donc, comme tu disais, les questions à se poser, c'est quel est mon véritable problème, par exemple? Pourquoi est-ce que je suis en surpoids? Depuis quand est-ce que je suis en surpoids? Ça, c'est intéressant parce que si on arrive à se dire, ah ben oui, finalement, il y a 10 ans, ok. La question immédiate, c'est,
Pourquoi il y a 10 ans?
voilà, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans dans ta vie? Et là, ça mérite de la poser une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il faut pour que la personne réaccède. Parce que il faut bien comprendre comment ça fonctionne dans notre cerveau au niveau des traumas. C'est que on a une protection. Les souvenirs traumatiques s'encapsulent. Ça se fait naturellement. Il y a un urgentiste américain qui s'appelle Robert Sker, qui a écrit des bouquins géniaux. Malheureusement, ils sont qu'en anglais. Pour les anglophones qui nous écoutent, rigolez pas avec mon accent, sinon je tapote. C'est The Body Bears the Burden, le corps supporte la charge. Où il explique comment s'engramme les traumas à l'intérieur de nous. En fait, ces souvenirs sont quasiment encapsulé. Dans cette capsule, on va retrouver le film, l'événement qui s'est passé. On va retrouver tous les déclencheurs, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti, les odeurs, etc. Et on va retrouver l'émotion ressentie avec son intensité émotionnelle. Et ça, bien souvent, c'est inconscient. Et il faut juste parler de comment ça s'intègre tout ça. Vous savez, tu sais, Maria, les recherches qui avaient été faites par Pavlov, qui est un psychologue russe, il nourrissait des chiens et au moment où il les nourrissait, il faisait sonner des clochettes. Je crois qu'il y en avait cinq. Et les chiens voyaient la nourriture, salivaient, ils faisaient sonner les clochettes. Et puis, après avoir répété ça un certain nombre de fois, eh bien, ils regardaient les mêmes chiens, ils faisaient sonner les clochettes et les chiens salivaient. Donc c'est vraiment une réponse conditionnée, engrammée à l'intérieur de la tête, de l'esprit. Et il a observé également que quand il faisait sonner quatre clochettes, il y avait à peu près la même réaction, mais moins forte. Et encore moins fort quand il n'y avait que trois clochettes. Eh bien, nous, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si on a un souvenir, si on vit une expérience présente dans laquelle on a une, deux, trois, quatre clochettes d'un souvenir qui, dans notre passé, en comportait cinq ou six, on va ressentir une émotion assez intense qui va être en rapport avec ce qu'on a vécu, sans forcément avoir à notre conscience le souvenir en tant que tel. Donc, on vit quelque chose, on se dit, mais j'ai pas de raison de ressentir ça. Ben, c'est juste parce que c'est encapsulé dans notre passé. Et donc, ce qu'on cherche à faire avec le EFT, c'est à se reconnecter avec cette capsule traumatique. Et que, donc, c'est pour ça qu'on utilise des mots négatifs. Hein, ça surprend beaucoup de gens de dire, mais pourquoi je répète ça? À force de répéter ça, je vais finir par le croire ou par me l'ancrer à l'intérieur de moi. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est passer de la partie néocorticale, donc du néocortex, là où il y a nos pensées, nos cognitions, à l'étage du dessous. Parce que l'étage du dessous, le cerveau limbique, c'est là qu'il y a les émotions. Et que la manière d'y accéder, eh bien, c'est de parler à voix haute. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire, on parle à voix haute parce que si on ne fait que y penser, ça nous engage moins. Parler à voix haute, ça active le canal auditif. Donc ça nous met plus dans l'émotion. Et à partir du moment où on est dans l'émotion, on commence à rentrer à l'intérieur de notre capsule traumatique et les stimulations des points d'acupuncture eh bien, permettent d'ouvrir et d'ouvrir cette capsule traumatique et donc de dégonfler l'intensité émotionnelle. Ce qui fait qu'après, le souvenir que j'ai vécu, eh bien, il va rester soit inconscient, soit il va passer à la conscience, mais l'intensité émotionnelle en rapport avec ce souvenir, eh bien, elle n'existe plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vis quelque chose au quotidien. Par exemple, je prends un autre exemple, mais la peur de parler en public. Avant, je suis tétanisé, je transpire, etc. Et puis, maintenant que j'ai fait mon travail en EFT, eh bien, je suis pareil, devant une salle. Ça agit comme une clochette de Pavlov. Ça me renvoie dans mon passé, à une expérience douloureuse et traumatisante que j'ai vécue. Mais là, il n'y a plus l'émotion. Donc, hop, ça revient au présent et il ne se passe rien. Donc, du coup, je suis à l'aise en public.
Oui.
Voilà le phénomène, en fait. Donc, oui. L'important, ce que je disais, hein, c'est de cibler la cause initiale. Vous pouvez aussi vous poser d'autres questions. C'est comment je me sens quand je pense à mon surpoids? Comment je me sens quand je pense à mon corps? Comment je me sens quand je pense à moi-même? Une chose à faire aussi, regardez-vous dans une glace. Posez-vous les questions devant une glace, faites de l'EFT dans une glace, vous allez voir à quel point ça vous connecte à vos émotions. Parce que on fuit la douleur, c'est normal, c'est le fonctionnement du cerveau. On fuit tout ce qui est douloureux pour aller naturellement vers le plaisir. Forcez-vous, je sais que c'est douloureux, c'est pas évident, mais faites de l'EFT dans une glace par rapport à votre problème de surpoids, en vous regardant bien, en disant, même si je ne supporte plus mon corps tel qu'il est, faites-le en sous-vêtements, en tenue légère, vous allez voir comment ça vous fait monter un peu plus. Je dis ça pour les personnes qui ont de la difficulté à retrouver leurs émotions, à se connecter, et qui disent « Oh non, le EFT, ça ne marche pas.
» Oui, oui, et cette phrase que tu as suggérée tout à l'heure, « À l'intérieur de moi, il y a une belle personne. » Ça peut être une voie de trouver l'acceptation malgré cette évidence dans la glace.
Oui, tout à fait.
Alors justement, il peut arriver que l'intensité monte en faisant ce genre d'exercice. Qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là?
Alors, c'est bon signe quand l'intensité monte. Ça veut dire que la personne...
D'accord, c'est pour savoir.
La personne est en train de se connecter plus profondément avec son émotion. Elle était juste en surface de sa capsule traumatique, elle est en train de rentrer dedans. Donc des fois, on a des personnes qui sont à 3-4 et qui se retrouvent au bout d'un moment à 10 ou même à 11, elles disent, sur 10. Donc,
oui.
Elle est très activée, elle pleure. Eh bien, c'est bon signe, quoi. C'est continuer le tapping.
Et qu'on touche le cœur du problème.
Voilà. L'erreur, c'est de dire, oulala, plus je tapote, plus ça monte. Eh bien non, plus vous tapotez, effectivement, oui, plus ça monte, mais plus vous rentrez au cœur du problème. Soyez à ce moment-là attentive à tout ce qui se passe, à toutes les pensées qui vous viennent, les images, même si a priori ça n'a pas de rapport. Notez tout ça dans un coin de votre tête, continuez le tapping. Et puis, parce que vous n'êtes pas loin de la solution. En fait, en EFT, la vraie difficulté, c'est avec des personnes qui sont dissociées, c'est-à-dire des personnes qui sont éloignées de leurs émotions. Encore une fois, c'est une mesure de protection, hein, d'être dissocié. C'est la première protection des enfants, cette dissociation. Quand on est dedans, quand on est super activé, eh ben, c'est tant mieux. C'est que on va enfin arriver à solutionner son problème. Donc, si ça monte trop fort, ce que vous faites, c'est que ça veut dire que vous êtes déjà dans l'émotion. Donc, vous arrêtez de parler et vous tapotez. Vous tapotez. Soyez observatrice de ce qui se passe à l'intérieur, notez tout ce qui se passe, ça vous fera de la matière à travailler par la suite.
D'accord. Alors, on ne va pas tarder à passer aux questions-réponses, mais d'abord, est-ce que tu veux dire quelques mots sur comment concilier l'hypnose et l'EFT? Parce qu'à l'origine, tu es quand même hypnothérapeute.
Oui, alors en fait, moi j'adore vraiment ces deux techniques. On dit souvent que l'EFT est compatible avec plein d'autres techniques, ce qui est absolument vrai. Hein. Je forme des sophrologues par exemple qui l'utilisent avec grand plaisir, aussi bien des ostéos. Enfin, vraiment, c'est une technique qui est très complémentaire au reste. Avec l'hypnose, c'est pour moi le top du top, parce que tout ce qu'on apprend en hypnose nous permet d'améliorer notre approche de l'EFT. Comment je me rends compte de ça? C'est que je donne des cours à l'Académie d'hypnose à Paris, qui s'appelle l'Arche, hein, qui se trouve du côté de la gare de l'Est. Et donc, je forme des hypnothérapeutes déjà confirmés pour certains. Et on retrouve les bases de ce qu'on apprend en hypnose. On peut les utiliser avec l'EFT. Et c'est par exemple la ratification, c'est-à-dire le fait de regarder, d'observer ce qui se passe sur le visage de la personne. Et de se mettre en synchronisation avec elle, donc de vibrer sur la même vague que la personne. Il suffit par exemple tout simplement de respirer au même rythme respiratoire, d'utiliser le même ton de voix qu'elle. C'est-à-dire que si la personne a un ton de voix très calme, très doux, eh bien c'est simplement adopter le même ton de voix. Être vraiment dans le respect, être dans la bienveillance, être dans cette synchronisation qu'on pratique avant de faire de l'hypnose, d'observer sur son visage. À partir du moment où on a ça, on peut se permettre de faire des choses qui sont des suggestions de phrases. Parce que on va aider la personne à aller dans des endroits où elle n'a pas forcément envie d'aller toute seule. Et comme on peut regarder ce qui se passe sur son visage, on peut voir tout de suite si on a tort ou si on a raison. Généralement, si on a tort, il ne se passe pas grand-chose. Si on a raison, on le voit tout de suite. Hein. En hypnose, on parle de la loi de la demi-seconde. C'est-à-dire que quand vous posez une question à quelqu'un, avant qu'il vous réponde, vous avez déjà la réponse sur son visage, dans la demi-seconde qui précède la réponse, parce que l'inconscient, il répond instantanément. Donc on le voit, hein. Si on fait dire, enfin on pose des questions à une personne, on connaît la réponse, on sait que c'est oui, donc on calibre un oui, ensuite on calibre un non, et après, ça vous aide à aider la personne à cheminer dans sa séance de FT, et ça c'est vraiment très intéressant. Et voilà, en fait, toute la phraséologie aussi qu'on utilise en hypnose, des phrases volontairement floues d'une manière artistique, eh bien on peut le ressortir aussi, par exemple la phrase que je vous proposais tout à l'heure, même si une partie inconsciente de moi a une bonne raison de m'empêcher de maigrir, je m'accepte totalement et complètement. On est en train de faire des phrases pour parler à son inconscient. Ça, c'est une approche qui est purement hypnose, conversationnelle. Voilà. Donc, les deux vont très bien. Et ce que je terminerai rapidement, parce que je crois que déjà je déborde, c'est de dire que dans le programme Mental Clean, j'utilise les deux. C'est-à-dire que j'utilise d'abord l'EFT, hein, les personnes. Il y a à peu près 600 personnes, 500-600 personnes qui s'inscrivent chaque mois, donc qui découvrent l'EFT la première semaine. Elles apprennent l'EFT et elles se concentrent sur du négatif. Donc c'est ça que je trouve vraiment génial pour un hypnothérapeute, c'est de pouvoir enfin attaquer de front le négatif. Et une fois qu'on a travaillé sur le négatif, eh bien on fait rentrer du positif, on fait des futurisations, on fait des suggestions positives, on booste la personne, on lui ramène, en fait on enlève le noir avec l'EFT, on ramène de la lumière avec l'hypnose. Voilà, ça se complète très bien. On peut faire les deux, hein, enlever le noir et ramener de la lumière avec l'EFT. Avec l'hypnose, on a des outils supplémentaires qui permettent on va dire, d'optimiser, de booster encore cet outil qui est déjà redoutablement efficace en lui-même.
Merci pour tous ces conseils pour les personnes qui cherchent à maigrir et qui ont
Merci,
tout
Maria.
essayé sans y arriver. N'hésitez pas à retrouver Jean-Michel sur ces différents sites internet. Tu peux les citer, les principaux? Tu en as plusieurs?
Alors, il y a www.mentalslim.fr. Il y a mon site également qui est www.guret.fr. Et puis le site EFT Univers, tout accroché, sans E à la fin, .com.
Merci. On va passer aux questions-réponses.
Voilà, alors Jean-Michel, pendant ce temps-là, tu as pu te préparer et voir toutes les questions qui arrivent dans le chat. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Jean-Michel, je vais ouvrir ta ligne pour que tu puisses reprendre. Voilà, tu es avec nous.
Ok. Tu m'entends?
Oui, c'est bon.
Bon. Alors, je vais d'abord commencer par faire une ronde sur, même s'il y a plus de 1000 personnes qui m'écoutent, je m'aime et je m'accepte complètement, histoire de me détendre. Et alors, j'ai un quart d'heure, donc je vais lancer mon chronomètre pour essayer de respecter le timing, vu que c'est mon problème généralement. Alors, je vais répondre aux questions un peu à la volée, très rapidement. J'y reviendrai sur le blog parce que je vais essayer d'en traiter un maximum. Hein. Donc, Cathy qui nous dit, est-ce que je pourrais avoir le texte de ce qui est en train de se dire? Donc, en fait, c'est possible. Ça sera à voir après, au moment de l'achat. Sachez aussi, parce que j'ai eu plein de questions dans ce sens, que vous pouvez le réécouter gratuitement, cette intervention, pendant 24 heures. Évolise qui nous demande pourquoi, bonsoir, combien de fois doit-on le faire? C'est plusieurs fois par jour en cas de fringale. Oui, bien sûr. Alors, pour tout ce qui est de l'ordre du compulsif, eh bien, il faut le faire à chaque fois que la compulsion se manifeste. Il y a deux choses à faire, en fait, hein, sur les compulsions. Il y a à la fois, dans l'instant, on travaille sur ce qui se manifeste, et l'idéal, c'est vraiment, évidemment, de travailler sur ce qui est à l'origine de ça. Donc là, ça va nécessiter, comme j'expliquais dans l'intervention, un travail un peu plus fouillé et un peu plus long. Alors, peut-on avoir des résultats pour le problème inverse? Jenny 66-71 qui nous demande ça, c'est-à-dire grossir. Bah oui, bien sûr, on peut aussi l'utiliser dans le sens inverse. En fait, vous savez, les Américains ont une phrase, enfin Gary a une phrase qui était try it on everything, ça veut dire essayez-le sur tout. Donc de toute façon, vous risquez pas de vous faire du mal à l'essayer. Hein. Donc vous allez faire des jalouses et à poser ce genre de questions. Alors, donc, pour maigrir réellement, il faut utiliser l'EFT. Pouvez-vous redonner la phrase à réciter? C'est même si j'ai tel et tel problème, je m'accepte totalement et complètement. Je vous conseille Claire de réécouter l'audio, parce que comme ça, vous pourrez bien comprendre le fonctionnement de l'EFT. Alors, vous allez trop vite. Oui, c'est vrai qu'on va trop vite, mais il y a tellement, tellement de choses à dire qu'on est un peu obligé d'aller trop vite. Hein. Il n'y a pas de vidéo de la conférence, donc en revanche, il y a les audios. Le point karaté, je vois Rutette qui nous demande, pouvez-vous redonner le point karaté? Eh bien en fait, c'est le tranchant de la main, c'est la partie charnue de la main avec laquelle les karatés cassent les briques. Donc c'est pour ça que on l'a appelé comme ça. Dragon de soleil, dragon et soleil? Dragon de soleil, voilà, qui nous dit EFT hypertension, est-il possible d'intervenir sur ce type de pathologie tout en se faisant surveiller par un médecin? Vous faites bien de le signaler, et oui, vous faites surveiller par un médecin, et vous le faites, vous verrez ce que ça donne, il n'y a pas de garantie, mais à partir du moment où le stress cause l'hypertension, si vous stimulez l'ensemble des points de la ronde, de toute façon, vous désactivez le système sympathique qui est responsable du stress et vous activez le système parasympathique qui, justement, vous permet de vous détendre. Donc, forcément, ça devrait vous faire du bien. Donc, Estella qui dit des choses très sympas. J'en profite aussi parce que j'ai vu aussi passer des choses très mignonnes de personnes, des témoignages qui disent depuis 15 jours avec l'EFT j'ai réussi à perdre 3 kilos. Donc, bah, merci pour vos témoignages. J'espère que les autres aussi, ça leur donnera l'envie de pratiquer des séances de EFT. Alors, a-t-on la possibilité d'inclure une façon plus équilibrée de manger par l'intermédiaire d'une ronde? Oui, ça sera, disons, la conséquence, c'est-à-dire qu'il faut vous centrer sur votre problématique, et puis, de fait, en soulageant ce qui est à l'origine du problème, c'est-à-dire de manger de manière pas équilibrée, vous arriverez, enfin, vous devrez, enfin, vous pourrez, on va dire, hein, j'aime bien mettre des pincettes et pas trop faire des promesses comme ça, dans l'absolu, mais oui, c'est possible. Alors, est-ce possible de résorber la bouée de sauvetage qui apparaît souvent vers la cinquantaine de milus? Donc, c'est quoi, c'est un monsieur ça? Ou une dame, je ne sais pas. Bah oui, bien sûr, si vous m'insistez, vous la résorbez cette bouée de sauvetage. Est-ce que ceci fonctionne également en période de changement hormonal par rapport à la ménopause de Papyrus 192? Alors, oui, et en plus, à la ménopause, il y a plein d'autres problèmes qui nous assaillent. Donc, travaillez aussi sur tous ces changements qui se passent à la ménopause. Et forcément tous les aspects psychologiques qui vous atteignent. Hein, considérez, je l'ai déjà dit, mais considérez que le surpoids, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Donc, travaillez sur la cause. En éliminant la cause, vous éliminez le comportement qui agit un peu comme un pompier ou un sauveteur. C'est-à-dire, si vous mangez trop, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui est en souffrance. Si vous calmez la partie de vous qui est en souffrance, et vous n'avez plus besoin de vous attacher et de vous centrer sur le sauveteur. En fait, le comportement addictif, en l'occurrence, c'est un sauveteur. Alors, et quand le surpoids provient d'un arrêt de tabac, prima donna, eh bien, le surpoids, je veux dire que le fait, ça illustre ce que je viens de dire, en fait. Si vous fumez et que vous vous privez de fumer, si c'est ressenti comme une privation, vous allez connaître ce qu'on appelle un déplacement de symptômes. C'est-à-dire que vous fumiez avant pour calmer votre stress, par exemple, et bien là, puisque vous avez pris la décision de vous arrêter de fumer, et bien vous allez faire autre chose pour calmer votre stress. Par exemple, vous allez manger. Donc, si vous calmez, si vous vous intéressez à la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous stresse, et bien vous allez réduire, voire diminuer ou annuler ce besoin compulsif de manger trop. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de questions, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais, mais on va y aller gaiement.
Oui, effectivement. Peut-être la question de Clara qui vient d'arriver, Jean-Michel. Si on n'arrive pas à maintenir malgré tous les efforts fournis.
Alors, la question de Clara. Moi, je suis parti sur les questions les premières hein, qui ont été posées. La question de Clara, elle est où? Et si on n'arrive pas à maintenir malgré tous les efforts fournis? Alors, c'est une question qui est difficile parce que il y a forcément une raison. C'est-à-dire qu'il faut
Oui,
aller
est-ce que
à la
ça ne veut pas dire
pêche,
qu'on
faut
n'a
aller.
pas encore trouvé la raison, qu'on n'a pas encore trouvé le nœud émotionnel?
Exactement. Bon, je discutais tout à l'heure avec une personne qui m'appelait et qui me dit, voilà, je suis le programme, je fais toutes les phrases, etc., etc. Ce qui est possible aussi, c'est que la personne en fait. En discutant avec elle, elle me dit bah, finalement, quand je fais des phrases, je ressens jamais d'émotion. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est une défense. Ne pas ressentir d'émotion, c'est un très bon système de défense, parce qu'on ne va pas ressentir les mauvaises émotions. Le problème, c'est qu'on ne va pas ressentir les bonnes. Et en fait, on ne va donc pas s'associer à ce qui est à l'origine de notre problème. On ne rentrera pas dans le trauma. Et si on est complètement dissocié, le fait de faire du tapping, bah, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, bien souvent, les gens ont des problèmes. Parce que justement, ils font de l'EFT, mais sans réellement ressentir les choses, quoi. Alors, j'en ai où? Tu as des questions aussi, parce que j'ai pas eu le temps de tout voir, Maria.
Oui, ça défile beaucoup, effectivement. Je vois beaucoup de questions. Est-ce que ça marche pour les règles douloureuses? Est-ce que ça marche pour se ranger les ongles? Comme disait Jean-Michel tout à l'heure, la devise de Gary Craig qui n'arrête pas de répéter, c'est try it on everything. Essayez-le pour tout. Essayez et vous verrez. Franchement, j'ai rencontré très peu de problèmes qui résistent à l'EFT. Parfois, il faut un peu plus de travail de détective, effectivement, mais essayez. De toute façon, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Tentez, faites-vous accompagner s'il y a besoin. Vraiment, c'est une technique époustouflante pour ça, comme vous allez découvrir dans les 12 autres applications que vous pouvez découvrir dans les jours qui viennent.
Tout à fait, j'ai une question de Starmania aussi. Pour l'énurésie de mon enfant, quel conseil? Ben écoutez, là on est effectivement plus centré sur le poids, mais quel conseil? Ben, commencez justement à appliquer l'EFT, ça marche vraiment très très bien. J'ai pas mal de très jeunes clients et c'est vrai que les résultats sont vraiment super.
Oui.
Alors, la blessure d'humiliation explique vraiment la prise de poids, qu'en pensez-vous? Bien sûr, donc Charlotte Maz, ce que je vous conseille de faire, c'est à nouveau de vous centrer sur la cause. Toujours aller chercher la cause et si possible la cause la plus ancienne. Généralement, on va travailler sur ce qui est présent dans l'instant. Mais Dites-vous bien une chose, c'est que si vous surréagissez par rapport à des situations X ou Y dans lesquelles vos amis, eux, ben, ça ne les fait pas spécialement monter d'un point de vue émotionnel, c'est que la situation que vous avez rencontrée vient appuyer sur une blessure plus ancienne. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à trouver, tout en sachant que ce n'est pas forcément évident. Mais en prenant le temps, éventuellement en vous faisant aider pour faire ça, eh bien vous arrivez vraiment à remonter dans le temps et à nettoyer. Enfin, c'est comme si on arrivait à adoucir le bleu initial dont on a été victime. Alors, connaissez-vous les 5 blessures de Lise Bourbeau?
Alors, peut-être une dernière question, Jean-Michel, parce qu'il va falloir libérer la salle, comme il va y avoir
oui,
une autre conférence à 21h.
Absolument.
Les auditeurs puissent se soucier.
Une dernière question. Merci beaucoup, Patty qui dit merci beaucoup, j'ai compris qu'il fallait que je sois forte, surtout pas forte moralement, pas forcément physiquement, c'était pas une question, je vais en prendre encore une autre, alors je vais remonter un peu plus loin. S'il n'y a pas de culpabilité, l'EFT est efficace quand même? Ben oui, bien sûr, s'il y a du poids et qu'il n'y a pas de culpabilité par rapport au poids, il y a certainement une autre cause, donc c'est pareil, hein, toujours, c'est toujours le même message, hein. Remonter dans le passé, retrouver la cause. C'est vraiment en travaillant sur la cause, sur la partie de vous qui a souffert, qui a été blessée et qui continue à se manifester par moments à l'intérieur de vous. Eh bien, c'est là que vous arriverez vraiment à faire des progrès et à vous libérer complètement. Allez, une dernière. Béa qui dit, une
Vas-y.
Fois que vous avez appris l'EFT, est-ce que vous pouvez vous soigner tout seul? Alors, l'EFT...
Eh bien, revenez à 21h, parce que c'est le thème de la conférence suivante. Mais donnez-le
okay.
Ta réponse, Jean-Michel.
Vas-y. Eh bien, en fait, moi, je dirais que l'EFT a aussi des limites et qu'il y a des moments où ben, c'est utile, et voire même indispensable, de se faire aider par un praticien. Extérieur, parce qu'on peut difficilement être à la fois et dedans et dehors, et donc on ne peut pas tout régler tout seul. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est un outil prodigieusement efficace qui vous permet, entre les séances, d'avancer et d'aller vraiment plus vite et de vous sentir acteur. Je vois très souvent des problèmes liés à la confiance en soi. Pour ça, l'EFT est absolument génial. Vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous vous aidez vous-même à sortir de votre problématique. Donc, vous renforcez automatiquement, de fait, la confiance en vous. C'est vraiment un outil extra pour ça, quoi. Voilà, donc je m'arrête, Maria. Je te rends le, le parloir, le micro. Et en tout cas, je voudrais vraiment remercier toutes les participantes et les participants, et puis aussi remercier toute l'équipe d'organisation de ce congrès. Je sais que c'est un boulot de fou. Je vous ai vu bosser vraiment très tard la nuit. Donc, merci à vous de rendre tout ça possible. Et puis, bonne continuation pour toutes les autres conférenciers aussi. Au revoir.
Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci aussi à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog du congrès. Vous trouverez les liens sur le site, je vous le cite aussi, www.eft-le-congrès2012.com/blog. On va l'écrire dans le chat, ça sera plus simple. Et Jean-Michel pourra répondre personnellement à vos questions. Il a une page sur le blog, vous pouvez adresser vos questions. Si vous avez apprécié cette heure ensemble, parlez-en autour de vous. Vos amis peuvent encore s'inscrire à ce deuxième congrès virtuel francophone de l'EFT, il reste encore 12 conférences. Et moi, je vous donne rendez-vous dans moins d'une heure maintenant, à 21h, pour ma propre...